I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yeah.
Salut, c'est Juliette Katz. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui refuse de se taire. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société. Des conversations authentiques, sans filtre ni censure, sur des sujets parfois brûlants. Préparez-vous à être chamboulé, à rire et à peut-être penser différemment. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore où la liberté d'expression est la clé. Le podcast, c'est votre rendez-vous sans convention ni tabou. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais les intros, je prends une petite voix un peu genre... tu sais, je le lis vraiment bien. Et puis après, dès que je rentre dans le vif du sujet, je perds cette intonation et c'est dommage. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode solo, mais un épisode en live sur Twitch, parce que je sais pas si vous savez, mais je suis aussi sur Twitch. Et donc, je profite des moments où je suis sur Twitch avec quelques abonnés, une petite centaine, voire un petit peu plus. Là, il y a 207 personnes actuellement, pour en faire un épisode solo et en même temps échanger avec vous. C'est la deuxième fois que je fais ça. Sachez que la première fois où j'ai fait un épisode solo, bah en fait c'était avec mon mec, on répondait en fait à vos questions. Le montage m'a pris 2 jours. Voilà, donc là je me lance à nouveau dans cette expérience là. Aujourd'hui j'avais envie qu'on parle de parentalité parce que oh là là, ça va vous? Voilà, j'ai envie qu'on parle de ça parce que, comment vous dire, de pourquoi j'ai envie qu'on en parle, je vais vous faire un petit topo de où est-ce que j'en suis, quid de la parentalité de Juju Katz, et puis parler un petit peu avec vous dans le chat. C'est pas fameux, c'est pas fameux. Non, c'est pas vrai, j'exagère tellement. J'ai rajouté une corde à mon arc. Vous voyez, j'ai un arc dans la vie. Comme vous, vous avez tous des arcs. Moi, j'ai rajouté une corde à mon arc quand je suis tombée enceinte et quand j'ai accouché. J'ai accouché le 28 mai 2021, c'est-à-dire depuis 2 ans et 8 mois actuellement où j'enregistre ce petit épisode. Et alors, comment vous dire que entre ce qu'on vous raconte, entre les choses qu'on lit et la réalité, il y a un gap. Oh là là, un sacré gap. Je dirais un pont, un grand pont, un viaduc. Quand je suis tombée enceinte, en fait, c'est plutôt ça. En fait, je pense qu'il faut reprendre le point de départ. Moi, j'ai jamais, c'est ce que je vous disais un petit peu sur Twitch, YouTube, Instagram, je ne sais plus où. Mais moi, l'envie d'être parent, ça a jamais été un truc hyper présent dans ma vie, comme ça a jamais été un sujet quand j'étais plus jeune. C'était pas quelque chose d'ancré en moi. Je me disais, un enfant, ouais, je sais pas, on verra. Peut-être un, peut-être zéro, peut-être, je sais pas, on verra. Et puis j'ai rencontré Yves, ce fameux Yves qui ne s'appelle toujours pas Yves, mais qu'on aime bien appeler Yves. Et puis j'ai commencé à me projeter avec lui. Et puis lui a eu son envie à lui d'être papa et d'avoir 2, 3, voire 4 enfants. Et je lui ai dit, accouche mon gars, on en reparle. Et je lui ai dit, franchement, moi, j'ai pas du tout envie de... j'ai pas du tout envie d'avoir 2, 3, 4 enfants. Moi, d'en avoir un, c'est déjà cool. Et après, on verra. Mais j'ai commencé à découvrir l'envie de le voir en tant que papa. Et d'avoir ce truc un peu niais, mais de se dire, j'ai envie de voir ce qui découle de nous, de l'amour qu'on a en commun. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Quand on s'y est mis, très vite, on s'est dit, bah, viens, on va checker si tout est OK chez l'un et chez l'autre. Au final, chez lui c'était ok, moi c'était bof. Et mon gynéco que j'adore m'a dit franchement, allez-y les gars. Et si dans quelques mois, bah en gros vous êtes pas enceinte, bah peut-être qu'on fera une PMA et tout ça. Et en fait, je suis tombée enceinte. J'aime pas le mot tomber enceinte. Comme si tu tombais de quelque part. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Je tombe enceinte et puis j'ai fait une fausse couche relativement vite. Je l'ai su un jeudi que j'étais enceinte et j'ai fait la fausse couche le lundi ou le mardi. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de réaliser, mais en tout cas, j'ai compris que mon corps pouvait y arriver naturellement sans aide médicale, en tout cas. Ce qui était très bizarre, c'est qu'en fait, je ressentais l'envie d'être enceinte, mais en même temps, quand on faisait l'amour avec mon mec, et j'étais dans un truc de « Hey, putain, vas-y, faut qu'on kenne, là faut qu'on y aille, là, parce que j'ovule !» Donc j'étais vraiment à fond dessus, j'ai dû faire 10 tests de grossesse, je ne sais pas combien de tests urinaires, enfin, j'étais à fond. Et quand j'ai fait cette fausse couche, ça a été vraiment très dur, émotionnellement. Physiquement, ça n'a pas été trop difficile, j'ai pas souffert, mais ça a été dur émotionnellement. Franchement, ça a été une grosse claque... Tu sais, c'est de la montagne russe en 2 secondes. En fait, après cette fausse couche, je me suis dit franchement, on va attendre un peu. Parce que là, je me sens pas. Et en fait, on s'y est remis tout de suite. Je suis retombée rapidement enceinte. Et puis là, c'était parti. Et en fait, pendant toute cette grossesse, je me suis intéressée. Je me suis vachement intéressée au sujet de l'enfant, en fait. J'ai beaucoup lu, beaucoup. Mais je me suis pas tant instruite sur la posture de maman. Et en fait, pendant ces 9 mois, j'ai bouffé de les maternelles. J'ai bouffé, enfin les maternelles, c'est une émission sur France 2, me semble-t-il. J'ai bouffé des applications pour parents. Anna Roy, qui est une sage-femme merveilleuse. Enfin voilà, j'ai bouffé de l'information à tel point où je savais beaucoup de choses. Il y a des mamans enceintes qui s'intéressent pas du tout à tout ça, et puis il y en a d'autres qui s'intéressent beaucoup. Moi, j'étais genre surinformée. Vraiment. On m'a vite fait parler du postpartum. Ça a vite fait été un sujet, mais pas des articles que je lisais. Hein. C'est vraiment... Je me souviens d'une copine qui était maman depuis quelques temps, qui m'a dit « Putain, moi, le postpartum, ça a été hardcore. » Je fais « Le post quoi ?» Non, mais je reviens un petit peu à ses bases avant de vous parler du terrible tout, mais je voulais absolument allaiter. C'était pas un sujet. Donc, je me suis pas renseignée sur l'allaitement, vu que pour moi, c'était sûr. Et j'accouche. Et en fait, déjà, l'accouchement, c'est compliqué. Et en fait, l'allaitement, hyper compliqué, mais je j'y vais à fond. Et en fait, le postpartum, bah, je vis une dépression postpartum. Postpartum veut dire l'après-accouchement. Hein. Ça a été l'enfer parce que dès que mon fils est arrivé, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. En fait, il s'est passé quelque chose en moi pendant ma grossesse. C'est qu'en fait, très vite, je me suis dit, j'ai peur de m'oublier en devenant maman. J'ai peur de plus d'avoir de temps pour moi. Je parle pas de m'oublier, de me maquiller, je parle pas de ça. Je parle de s'oublier en tant qu'être à part entière. Et en fait, c'est complètement ce qui est arrivé. Les premiers mois, je n'existais plus. C'est ça. J'ai été dans une abnégation totale. Totale. En fait, j'étais surprésente, une dévotion surprésente pour mon enfant. Et en même temps, je me découvrais en tant que mère et je me disais, ouah, attends, c'est quoi ces nouveaux endroits que je connais pas? Je dois prendre soin de quelqu'un d'autre? Bah attends, mais ça fait 30 piges que je prends soin que de moi. Enfin, il y avait mon chien qui maintenant n'existe plus, n'est plus là. Enfin, il existe toujours dans mon cœur. Mais en fait, d'un coup, tu vois, tu dis, oh putain, attends, faut que je m'occupe de lui. T'as fait ça, faut que t'achètes les couches, faut que tout soit bien rangé. Moi, dans ma tête, c'était ça. C'était, je voulais que tout soit parfait, constamment. Constamment, je voulais que tout soit sous contrôle, parce que je voulais que ce soit le plus facile pour lui. Et je suis dans un truc, dans un tourbillon. Je suis dans un tourbillon d'amour et dans un tourbillon de nouveauté, dans un tourbillon de... Et en fait, c'est hyper violent. Pour moi, j'ai des copines pour qui c'est genre hyper fastoche, qui ont qu'un enfant, ça n'a pas du tout été vertigineux. Moi, j'ai vécu un tsunami. En plus de découvrir mon enfant, de me découvrir moi en tant que maman, il y a mon corps, où je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai perdu du poids pendant ma grossesse, parce que je faisais du diabète gestationnel, j'ai perdu 13 kilos... J'en reprends 8 à la fin. Le lendemain de mon accouchement, je perds 10 kilos. Et 3 mois après mon accouchement, je reprends 10 kilos en 1 mois. Donc, tu sais, des trucs genre qui n'existent pas, tu vois, enfin, qui existent, mais peu. Et mon corps devient mon ventre devient une pâte à pizza. Enfin, tu sais, c'est un truc où j'ai l'impression que je n'arrive plus à rien contrôler. Et pour une personne qui est contrôle fric, eh ben, c'est très dur. Bref, je me suis pliée en 4 pour faire en sorte que tout se passe comme je l'avais projeté. Et en fait, moi, je suis vraiment dans le mal pendant 6 mois, ou vraiment, en fait, je crois que ce qui est le plus difficile, c'est pas tant l'arrivée de mon enfant dans le couple, mais c'est la naissance de ma posture de mère. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile. Pendant tous ces 6 premiers mois, en tout cas, je n'existe plus au profit de mon enfant, parce qu'en fait, je crois que c'est ça, être mère, à ce moment-là. À ce moment-là, je suis convaincue qu'être mère, c'est être abandonniste avec soi-même, vous voyez ce que je veux dire ? Et juste être complètement dévouée à son enfant, bien s'occuper de la maison, presque devenir un peu une mère au foyer, sans jugement aucun, bien sûr, mais être dans un truc où d'un coup, je commence à faire des... Enfin ouais, à ce que ce soit parfait, quoi. Et en fait, à 6 mois, je pense qu'il s'est passé quelque chose où bah, déjà, l'allaitement s'est arrêté, parce que lui a décidé d'arrêter, bien que j'aurais aimé allaiter pendant 2 ans. Mais écoute, voilà, il a décidé d'arrêter, je vais pas le forcer, hein. Pendant ces 6 premiers mois, en fait, il y a eu deux actes, en fait. Il y a eu un truc il y a 3-4 mois, où vraiment ça a été un coup de massue, où j'ai failli faire une bêtise, avoir des pensées noires, j'ai eu ce truc-là. Et puis un truc il y a 6 mois, où j'ai commencé à m'habituer à cet état-là. J'allais dire malheureusement, et en même temps heureusement, on s'habitue à tout. Moi, c'est pareil, malheureusement et heureusement, je me suis habituée à ça. Heureusement, je me suis habituée à cette posture de mère que je découvrais et que j'aimais aussi. J'ai aimé ça, mais c'est juste que j'étais très dure avec moi-même et j'acceptais pas, en fait, de pouvoir... C'était très difficile pour moi de penser à quelqu'un d'autre que moi. Enfin, franchement, j'ai pas peur des mots, hein. Je crois qu'on est... Le sujet, il est là pour moi. C'est du narcissisme, hein, on va pas se mytho. Je sais que je le suis, en tout cas, de passer au second plan, c'était très dur. Mais à un moment, voilà, j'ai accepté ça, parce qu'on s'habitue à tout. Et puis, à partir de 6 mois, je crois que j'ai vraiment commencé à kiffer. J'ai commencé à kiffer parce que je me suis lâchée. Je me suis lâchée la grappe. En fait, ça sera pas parfait. Ça sera pas parfait. Et puis, à 6 mois, il a commencé à se passer des choses pour lui, quoi. Où il a réussi à se mouvoir de plus en plus. Et du coup, l'interaction enfant-parent... je trouve à cet âge-là, devient plus intéressante. Donc bref, et jusqu'à ces 1 an, en fait, c'était cool, mais je pense qu'on n'était pas... il était dans une crèche, une micro-crèche de merde, vraiment de merde. C'était, je dirais, presque de la maltraitance, sans qu'il y ait de... Enfin, j'en sais rien. C'était vraiment une très mauvaise crèche, il dormait pas. Il dormait pas, les personnes n'étaient pas du tout formées au sommeil. Donc, on se retrouvait avec un enfant qui était au bout du rouleau en fin de journée. Donc, on subissait ces conséquences-là. Ils ne sortaient jamais, ils étaient enfermés. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et dans le couple, on était soudés, quoi. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de je fais mon rôle parce que je dois faire mon rôle, je dois faire ma part, en fait. Je crois que quand on est parti vivre ici, dans le sud de la France, à la fois, enfin, je trouve qu'on a fait le meilleur choix de notre vie. Parce qu'on n'est plus à Paris, parce qu'on est dans la nature, qu'on a un jardin, qu'on paye une maison pas chère pour une grande maison, qu'il a une nounou fabuleuse, qu'il est dans la nature constamment, qu'il voit des belles choses, enfin voilà. Mais en fait, il se passe quelque chose depuis 1 an, donc mon fils a 2 ans et 8 mois, donc depuis 1 an et demi à peu près, en fait, il a commencé à avoir du rejet avec moi. Et j'ai commencé à un petit peu mal le prendre. Je suis hyper honnête avec vous. J'ai commencé à le vivre un petit peu mal, en fait. Mais franchement, c'était smooth, c'était tranquille, parce que je me disais il se découvre, il teste, c'est normal et tout. Mais déjà à ce moment-là, il disait il faisait comme ça de nom de la tête. Et je me souviens que l'année dernière, on est parti au ski avec des amis. Avec mon mec et avec Yves Junior, appelons-le comme ça, il a commencé à être dans le refus de certains trucs. Et en fait, nous, on était vraiment dans ce truc de « on ne veut pas le punir, on va être à son écoute, uniquement à son écoute, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de « va réfléchir ». Donc, quand il ne nous écoutait pas, quand il était frustré, quand il s'énervait, on était juste dans un truc de « je comprends chérie, tu es très en colère, je comprends chérie, tu es très frustrée, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver, comme qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour que ça aille mieux, viens on va réfléchir ensemble ». Ça a marché un petit temps, ça a marché un peu, et en fait on a des amis, ils nous ont dit franchement ce serait bien en fait qu'il aille réfléchir un petit peu à ses actes, et moi j'ai dit non, franchement... Quoi, de le punir? Ils m'ont dit, bah ouais, un petit peu, mais pas punir, genre, tu vas au coin et tu ne bouges plus. Pas comme ça, juste tu vas là et tu vas réfléchir un peu à ce qui vient de se passer. Et donc, on l'a fait au ski. On l'a fait dans les escaliers, donc il n'y avait pas de danger, hein, parce qu'on était vraiment à côté, on avait un œil sur lui. Et moi, j'ai été la plus éloignée entre mon mec et moi, parce que ça me faisait mal au cœur de voir mon fils sur les escaliers pleurer. Je ne peux plus vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi on l'a mis sur les escaliers, mais en fait, je voyais bien que d'être simplement, entre guillemets, ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir, d'être à son écoute, de dire « je comprends, mais ça, on n'a pas le droit, ça, c'est dangereux ». Et puis, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut pas dire le pas, il faut pas dire « ne marche pas vite », faudrait dire « marche doucement ». C'est difficile, tu vois, tout ce truc d'éducation positive, où moi, je me suis vachement pris la tête avec ça, beaucoup, 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 beaucoup. Je me suis foutu une pression énorme avec l'éducation positive, avec la parentalité bienveillante, on appelle ça, j'imagine, un peu comme on veut. Entre parenthèses, un petit disclaimer tout petit, je ne m'y connais pas énormément hein, en éducation bienveillante, en parentalité positive, etc. C'est pas mon créneau, même si j'ai lu des choses, des récits et tout ça. Je vous parle uniquement de ce que moi j'ai vécu et de ce que je vis. Mais en tout cas, moi, ce qui était important pour moi et pour mon mec, c'était vraiment qu'on soit à l'écoute. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, qu'on soit à l'écoute des émotions de notre enfant. Pour nous, être à l'écoute des émotions de notre enfant, c'est le considérer complètement. Complètement prendre conscience de qui il est, de « d'accord, tu es frustré, tu ressens de la tristesse, je comprends ». Juste nommer, être d'accord, valider les émotions. On trouvait et on trouve que c'est très important. Donc on avait mis ça au centre il y a un an. Et en fait, voilà, quand on est parti au ski, ils nous ont dit franchement, invitez-le à aller dans l'escalier, enfin, mettez-le dans l'escalier et invitez-le à réfléchir à son comportement. Juste ça. Et donc, on l'a fait. Et moi, ça a été hyper dur pour moi. Mais en fait, on a vu les bénéfices de ça. On l'a pas fait comme une punition à ce moment-là. Parce que les choses ont bougé après. Et je n'en suis pas fière, mais comme on dit, hein, le podcast, enfin, comme on dit, non, il n'y a pas de. Comme on dit, le podcast, c'est quand même un endroit où il n'y a pas de sujet tabou, donc j'ai pas envie de vous mytho et de vous dire des choses fausses. Donc je vais aller vers un chemin où je ne suis pas forcément fière, mais je suis transparente. À ce moment-là, on l'a mis dans l'escalier, on lui a dit « tu réfléchis à ce que tu as fait, on n'est pas d'accord. On entend que tu es en colère, on entend que tu es triste, que tu es frustré, mais on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait, tu vas réfléchir. » Et en fait, ça a vachement bien marché, parce qu'on n'était pas loin, évidemment, on checkait. Hein. Et donc, pendant un temps, en fait, on allait souvent. En fait, non, c'est pas vrai, on l'a fait quelques fois où on le mettait sur l'escalier, en étant pas loin, en checkant et tout. Et en fait, ça suffisait. À table, il faisait un truc, genre, il jetait quelque chose. Je faisais « chérie, petit Yves Junior, fais attention, je comprends, t'es peut-être un peu frustré, est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Alors, il pouvait pas vraiment parler, mais... Enfin, quoi que, il commençait déjà à dire certaines choses, en tout cas, à se faire comprendre. Au bout d'un moment, en effet, quand je disais « attention, je suis pas d'accord avec ça, ça c'est quoi ? Ça c'est interdit, on arrête, parce qu'on signait beaucoup, parce que notre Noël signait beaucoup, enfin, elle signe beaucoup, maintenant, il est plus en âge de parler. » Mais donc, on faisait la croix pour dire c'est interdit, on faisait plein de trucs, on disait c'est interdit, ça, on arrête, je suis pas d'accord. Tu as le droit de pas aimer, tu as le droit de pas avoir envie de manger ça, mais on ne jette pas la nourriture, c'est interdit. On ne jette pas les couteaux, sinon tu, enfin, la fourchette, mais pas de couteau. Sinon, tu vas la chercher après. Enfin, voilà. Et à un moment, bah, ça marche pas, bah, tu vas dans l'escalier, tu vas réfléchir. Ce truc-là, il a plus marché, à un moment. Ça n'a plus fonctionné, donc on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va inventer? Donc, on a trouvé. Et en fait, à un moment, il n'y avait plus du tout besoin de ça parce que tout était hyper cool. Et en fait, il y a ce fameux Terrible Two dont on nous a parlé. Le Terrible Two, j'ai pas envie de vous dire de conneries parce que je vous en ai parlé en story sur Insta. Je vais lire la définition pour pas dire de bêtises. Le Terrible Two survient chez de nombreux enfants entre 18 et 24 mois. Bon, c'est un peu moins de 18 mois, c'est un peu plus de 24 mois. Lors de cette période, l'enfant entre fréquemment en opposition avec ses parents, conteste chacune de leurs décisions et peut être dans des colères noires lorsqu'il n'obtient pas immédiatement ce qu'il veut. Ça, je le lis sur babybio.fr. En même temps, c'est pas tout à fait faux, hein. Pour moi, le fameux Terrible Two, parce qu'on en parle, on en fait un peu tout un truc énorme. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Encore une fois. Encore une fois. pour moi, le Terrible Two, c'est quand il commence à prendre conscience réellement qu'il devient lui, qu'elle devient elle, et que son qu'il n'est pas ses parents en fait, et qu'il peut dire non, qu'il peut faire ses choix, qu'il peut être en opposition avec l'autre. C'est un enfant qui s'affirme en fait, c'est ça. C'est un enfant qui teste ses limites à soi, qui teste les limites de l'autre, mais pas parce que c'est un manipulateur. Pour moi, il n'y a pas d'enfant manipulateur à cet âge-là. Pour moi, c'est juste un enfant de 18 mois, 2 ans, bah ici 2 ans et 8 mois, qui découvre des choses, qui teste des choses, comme nous, on teste des choses dans notre couple, avec notre meilleur pote, avec notre mec, notre maman, on teste des choses, c'est pas pour ça qu'on est manipulateur. Il prend conscience que c'est une personne à part entière. En fait, nous, on croyait être passé par là, déjà. Parce que quand nos amis nous en ont parlé, on s'était dit, ah ouais, bah franchement, lui, il le fait parfois, d'être un peu dans le rejet, de dire non à droite, à gauche, mais franchement, ça se gère très facilement. Maintenant qu'il a 2 ans et 8 mois, ce que je peux vous dire, et là, je peux pleurer à tout moment, c'est qu'en fait, depuis une année, il est vraiment dans un rejet avec moi. Il est dans un rejet beaucoup plus... Enfin, il n'est pas dans le rejet avec son père, en fait. Maintenant qu'il parle doucement, il va très souvent dire « Pas toi, maman !»« Non, pas toi !»« Papa, papa, pas toi, maman !» Il va beaucoup dire ça. Dès qu'il se fait mal quelque part, ça va être son papa. Dès qu'il fait une bêtise, il a un truc contre moi. Voilà, il est vraiment dans un truc de « Pas toi, maman !» très fort. Sauf qu'en fait, ça, moi, j'en ai parlé il y a déjà de nombreux mois à des copines mamans qui m'ont pratiquement toutes dit « ça passe » et qui m'ont dit « ah bon ? Ah ouais, moi, ça m'arrive pas. Il a plutôt été comme ça avec le papa » ou « elle a plutôt été comme ça avec le papa ». Donc en fait, je me suis sentie pendant de nombreux mois seule face à ça parce que j'avais l'impression d'être... que ça n'arrivait à personne, enfin... J'exagère un petit peu les traits, hein, mais vraiment, j'avais cette sensation où je me disais « Putain, mais c'est pas normal, comment ça se fait que mon fils est dans un rejet tel ? Est-ce qu'il m'a percé à jour ? Est-ce qu'il voit ce qui se passe dans ma tête ?» Comme justement ces phobies d'impulsion de vouloir le défoncer parce que t'en peux plus, t'es en colère, etc. D'ailleurs, ça, moi, je suis en train de comprendre que quand t'as des phobies d'impulsion de colère, c'est peut-être de violence, pardon, pas de colère, mais aussi peut-être de colère, c'est parce que peut-être que t'as vécu ça dans ton enfance. À moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais voilà, en fait, jusqu'à là, il n'y a pas très longtemps, il ne voulait pas que je vienne le prendre du lit de sa sieste, il ne voulait pas que je le mette au lit, il ne voulait pas que je lui donne à manger, il ne voulait pas que je l'habille, il ne voulait rien. Et j'ai pleuré plusieurs fois parce que je me suis sentie vraiment rejetée très fortement. Et en fait, je pense que ça met en lumière, c'est là où c'est le moment où je suis en train de pleurer, mais je pense que ça vient mettre en lumière un truc en moi, et c'est là où je parle de moi et pas de l'enfant, parce que je lui en veux pas, j'ai pas de colère contre lui, c'est juste que ça vient toucher quelque chose chez moi qui est très difficile parce que je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens pas aimée. Et c'est ça qui est difficile, c'est que ça vient pointer quelque chose qui est très dur pour moi. Ce truc de « pas toi, pas toi, pas toi », que moi j'ai vécu dans mon enfance avec les copains-copines, que j'ai vécu, en fait. Et donc de voir mon fils qui me dit « pas toi, maman, qui me pousse, qui me tape », ça me renvoie à un truc où je me sens désaimée, en fait. Et donc quand mon fils me donne de l'amour et me donne du câlin et de la tendresse, et ben, je suis un peu comme dans une adduction de « donnez-moi ma dope, il me faut ça ». Donc dès qu'il est dans de la tendresse, je suis dans un truc de « oh ». Et donc c'est pas ok, en fait, tout ça n'est pas sain. C'est pas de sa faute, encore une fois, je parle pas de lui, là je parle de moi. C'est ça que je trouve difficile, en fait. Dans cette phase dans laquelle il est, dans laquelle on est, j'ai essayé de faire plein de choses et on continue d'essayer. De toute façon, il faut improviser. En fait, tu fais un spectacle d'impro en permanence. J'ai essayé de lui en parler. J'ai pleuré devant lui. Je me suis mise en colère. Je lui ai parlé dans des moments genre de jeu où je lui disais ça me fait mal, ça me blesse, ça me fait mal au cœur, ça me rend triste que tu me repousses, que tu me rejettes. C'est difficile pour moi. C'est un peu dans cet état-là, quoi, de vulnérabilité où je disais c'est dur pour moi. Je sais pas ce que j'ai fait pour que tu sois comme ça avec moi. Je comprends pas pourquoi c'est plus papa que moi. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que une fois je t'ai tenu la main un peu fort que du coup tu m'en veux? Donc voilà. Donc j'ai essayé. Je continue de le faire. Mais en fait, voilà, c'est difficile. Et mon mec, au tout début, quand je disais « Ah putain, Yves Junior est quand même dans le rejet avec moi », il me disait « Non, franchement, ça va ». Et en fait, maintenant, il dit « Oui, j'avoue, t'as raison, c'est vrai. C'est vrai que c'est vraiment notable ». Alors que quand Yves Junior est dans le rejet avec Yves, genre « Pas toi, papa ». Et ben en fait, mon mec, ça le touche pas parce qu'en fait, ça vient pas toucher quelque chose en lui, dans son enfance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, j'ai envie de vous dire que tout à l'heure, je parlais avec une copine qui me parlait de ça, de sa fille qui est dans le rejet avec elle et qui lui disait des choses terribles et qui se met dans des états terribles. Ou à la fois, moi, je me dis, bon, putain, mon fils, il n'est pas là-dedans, mais peut-être qu'il va y être. Et se combine à ça, se combine à ce truc de rejet, qui est du coup très dur pour moi. En fait, maintenant, on a essayé de faire plein de choses, parce que, comme je vous ai déjà dit, moi, j'ai un truc à ma tête, là, j'ai de l'hypertension intracrânienne, et donc je me rends compte que quand je dors pas assez, en fait, j'ai très mal à la tête. Donc le matin, je dors. Donc en fait, depuis que je suis maman, j'ai de la chance d'avoir un mec qui me laisse dormir le matin, et que c'est lui qui gère le matin. Donc ça fait 2 ans et 8 mois que mon mec gère le matin, et moi, je me lève quand j'ai envie. Je me lève pas à midi, je vous rassure, mais en général, je me lève une heure et demie après eux. Et donc, on a dit à notre fils, parce qu'il n'y a pas très longtemps, donc c'est mon mec qui gère le matin, et moi, c'est plus moi qui gère le soir. Et l'autre jour, il y a quelques semaines maintenant, je vais le coucher, tout ça, le soir, et il veut pas, il fait « pas toi, papa, pas toi, maman, pas toi !» Et là, je me suis mis un peu en colère. Et pas contre... Ah, aussi, si, je me suis vénère, on va pas se mytho. Je dis « Écoute, non. Non, je suis pas d'accord avec ce comportement, ça suffit d'être comme ça. Tu as peut-être envie d'être un peu plus avec papa, et je comprends, sauf que papa c'est le matin et maman c'est le soir. C'est comme ça. Est-ce que tu as compris ? Non, est-ce que tu as compris ? C'est comme ça. Papa le matin, maman le soir. Quoi qu'il arrive, que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. Ok ? D'accord. Bon, parfois il continue d'être dans le rejet avec moi. Mais au moins, il y a un truc où maintenant, il fait « Papa matin, maman soir ». Donc, il commence à capter ces trucs-là. J'ai même essayé aussi de montrer que ça ne me touchait pas. Quand il me dit « Pas toi, maman », je fais « Ok, pas bon, maman, allez, on va voir papa ». On a testé d'autres choses. Quand il me fait mal, par exemple, ou quand il n'est pas gentil avec moi, et ben papa, il dit « Oh, maman, ça va ?» Je fais « Oui, regarde, papa, Yves Junior, il m'a fait mal. Oh non, montre-moi. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? Viens, on se fait un gros câlin d'amour. » Et après, t'as Yves Junior qui fait « Un, moi aussi, famille, ensemble, aime famille, aime fort, un, pas toi !» Bon, donc oui, donc c'est ça que je voulais vous dire. Donc, depuis un moment, j'allais dire, c'est simplement, entre guillemets, du rejet. Il y avait aussi un petit peu de frustration. Un peu de frustration où on voyait, donc ça va être compliqué pour les gens qui écoutent cet épisode, mais pour les gens qui me regardent là actuellement, il allait se vénère, mais genre, tu sais, il essaye de faire un truc et après il fait... Il tremble. Et donc moi je suis, calme-toi chérie, tout va bien, on va essayer de le refaire ensemble, viens on essaye de respirer. Il est frustré comme ça, il a envie de tout casser et tout. Et c'est le trop plein d'émotions, tout à fait. En fait, voilà, je trouvais que ça allait parce que c'était de la frustration, voilà, il allait casser ses jouets un petit peu parce qu'il n'était pas patient, mais en vrai, franchement, ça se gérait. Et là maintenant, je pense qu'il s'est passé quelque chose en vacances. Là, on est parti en vacances avec, on était 4 couples. Avec tous des enfants, donc il y avait 5 enfants au total, avec des éducations très différentes, avec des âges très différents, et je pense, et notre fils était malade, en plus, je pensais pas que ça pouvait être plus difficile que ce qu'on avait vécu, dans le sens où c'est ce que j'ai écrit sur Instagram tout à l'heure, moi, quand on me parlait du terrible tout, je me disais, ah bah oui, il a été un petit peu dans le rejet, oh bah il est un petit peu frustré, mais franchement, nous, le terrible tout, non, tu vois, nous, il est pas passé par là, non, mais nous, on a eu la chance, enfin, vous savez quand même, le terrible tout, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. Tous les enfants ne passent pas par là, hein. Ça se joue vachement aussi sur l'éducation, j'étais ce genre de personne, il y a une semaine encore. Et maintenant, j'ai un petit peu changé d'avis. Parce qu'en fait, vraiment, avec mon mec, parfois, notre fils, il fait des trucs et juste, on se regarde, on se dit « Bonne chance ! Bon courage ! Allez, oh les cœurs ! Allez, c'est parti ! Allez, allez, on y va !» Mais je crois pas au terrible tout, mais à l'éveil de la conscience, donc pas d'âge. Maybe ! Mais en fait, tu vois, je dis terrible tout. Parce qu'en fait, c'est juste que les gens ont nommé ça comme ça. Mais peut-être que tu as raison et que ça se nomme comme ça. Très certainement d'ailleurs. C'est d'ailleurs le terrible tout. Je trouve que c'est affreux d'appeler ça le terrible tout. En plus, après, les gens Ils disent terrible fort. Et puis t'en as pour toute la vie. Et puis c'est que le début, ma grande. Donc c'est difficile. Et bref, donc en vacances, au-delà du fait qu'il ait été malade, ça a été du rejet tout le long. Tout le long de manière plus. Plus, mais vraiment, genre, rien. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas l'approcher. Et puis là, il ne nous écoutait plus. Il était dans un truc de... On l'appelait, il ne nous entend pas. On lui dit, on va faire ça, il ne nous entend pas. Et en fait, à un moment, moi, j'ai pété un plomb parce que... C'est ça que je veux vous dire, c'est que moi, ce que je découvre depuis que je suis maman, c'est la patience, ou c'est la non-patience, c'est l'impatience. Je n'ai pas de patience. Je n'ai pas de patience. Je découvre que je n'ai pas de patience. C'est plutôt ça, en fait. Je découvre que je n'ai pas de patience, mais que je dois avoir de la patience. Je m'énerve très vite. Et c'est là où je voulais parler de la violence. C'est que je pense... Enfin, j'ai de la violence en moi. J'ai ces moments où j'ai envie de le frapper. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Mais il m'est arrivé, et c'est là où je ne suis pas fière de ça, de lui serrer fort les mains. Parce que j'étais à bout et je m'en suis terriblement voulu. Ça m'est arrivé 2-3 fois de le faire, ce qui est déjà beaucoup trop. Tu sais, il te parle, enfin non, tu lui parles, il t'écoute pas, ou il te dit non, ou... Et en fait, tu vois, j'ai serré comme ça, forcément, et j'ai vu que ça lui avait fait mal et ou que ça lui avait fait peur, à juste titre d'ailleurs. Et je me suis excusée comme pas possible. Comme pas possible, en larmes, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça alors que on t'apprend à ne pas être violent. Et voilà, donc en fait, je pense qu'il m'en veut de ça. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'il est dans le rejet de certains trucs avec moi parce que j'ai pu faire ça. Et ça me déplaît très fortement d'avoir ça en moi parce que j'ai peur. Et c'est là où je suis pas fière de moi du tout et que j'ai un peu honte de vous dire ça. Mais j'ai peur un jour d'être violente, en fait. Parce que, en fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est que j'ai pas envie d'infantiliser mon enfant. Et on ne l'infantilise pas. Genre, t'es un bébé qui comprend rien et qui peut pas choisir et qui peut pas décider. Je pense qu'en fait, il est déjà en âge de choisir, de faire certains choix. Pas tous, bien évidemment. Mais que le parent est aussi là pour, évidemment, lui apporter un cadre, lui apporter de l'amour, de l'écoute, etc. Mais aussi de lui laisser l'espace. De se planter, de se faire mal, sans que ce soit dramatique, bien sûr, mais de lui laisser cette porte-là. Et c'est là où, parfois, moi, j'ai du mal à lâcher. Parce que je me rends compte que, parfois, j'ai ce schéma de pensée, et je pense que ça va vous parler, de l'adulte est plus fort, l'adulte sait plus, l'adulte sait mieux, et c'est à l'enfant d'écouter. Tu es à ta place, tu es à ta place d'enfant. Alors, ce truc est juste, mais en fait, je pense qu'il faut le remettre à la bonne hauteur, au bon niveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Dominant, dominé. Voilà, tout à fait. Et en fait, quand je vois que je suis... l'adulte sait mieux. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'adulte ne sait pas mieux. Ça dépend pourquoi. On est bien d'accord. Mais on peut se planter, en fait, nous, en tant qu'adultes. Et on peut avoir des pensées limitantes. Et que l'enfant peut nous aider, nous aiguiller. Voilà. Donc, évidemment qu'on sait plus que lui, parce qu'on est plus âgé que lui. Mais quand j'ai de cette violence-là en moi, de lui prendre ses mains parce que j'ai pas de patience et qu'il m'écoute pas, parce que je suis l'adulte et je suis la sachante, parce que c'est ce que je me dis dans ces moments-là, hein. C'est pas tout à fait conscient, mais je me dis, putain, il me fait chier, vas-y, je lui ai demandé de faire ça, oh, ça me rend ouf, putain! Et après, je me regarde, tu sais, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je lui ai serré la main, mais comment? Tu sais, parfois, non, j'ai juste fait ça. Mais j'ai eu envie, tu sais, de faire, de tirer ses cheveux, d'agir comme un bébé qui frappe les autres bébés. Et donc, moi, d'agir comme un bébé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible, en fait, de faire ça. Tu apprends à ton enfant qu'il ne faut pas frapper. Tu apprends à ton enfant que la violence n'est pas OK. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Mais je vais faire ça. Donc, heureusement, ça ne m'arrive pas tous les jours. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Ce qui est déjà trop, on est bien d'accord. Je vais serrer ses mains, un petit peu comme ça. On est bien d'accord qu'on a envie de faire de notre mieux, qu'on a envie d'élever nos enfants avec les meilleures armes entre guillemets, le meilleur savoir de la conscience des choses, on apprend toute sa vie, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où moi je me sens dépassée. Je me sens dépassée par lui en fait, et je me sens dépassée parce que parfois dans le couple ça va pas, dans le boulot ça va pas. Si vous avez vu ma dernière vidéo YouTube, ça va pas toujours. Donc je suis un peu dans des moments où tout ça prend le pas. Qu'en étant en vacances, j'ai fait quelque chose où en fait à chaque fois je suis très déçue de moi. Franchement, ça me déçoit trop de faire ça. Nous, on s'est juré de pas. Enfin, c'est juré. On ne dit pas de gros mots devant notre fils parce que voilà, on estime que c'est pas top. Par contre, quand il est pas là, vas-y qu'on y va quoi. Mais devant notre fils, on ne dit pas de gros mots. Devant notre fils, on ne s'engueule pas. Du moins, on ne se contredit pas devant lui. Parce qu'on pense que c'est important de montrer qu'on est ensemble et qu'on se soutient et qu'on va dans la même lignée, quoi. Et là, pendant les vacances, je sais plus ce qui s'est passé, mais il était malade. Moi, j'étais dans un... Encore maintenant, mais je me sens pas très bien dans mon corps et tout. Mon fils qui me rejette. Et à un moment, j'allais lui donner le biberon, je crois, le soir, ou le bain, je sais plus trop quoi. Et il a pas voulu. Et j'avais une crème à la main. Et donc, mon fils était avec... Yves, sur le lit, j'ai jeté la crème sur le lit, pas sur eux, hein, mais sur le lit, et j'ai dit, allez vous faire foutre, moi je vais me barrer. Et j'ai eu envie évidemment de fumer une clope en sortant, et je me suis dit, putain, j'ai dit un gros mot devant mon fils. Ok, c'est pas dramatique, d'accord, mais j'ai fauté à ce qu'on s'est mis en place, à ce qu'on a mis en place, et en plus, c'est nul. Enfin, j'ai pas trouvé ça cool de ma part, et en même temps, j'ai senti que j'étais au bout. J'étais à bout. J'ai dit, allez vous faire foutre, je vais me barrer. Parce qu'en fait, tout ce rejet et tous ces trucs où c'est difficile en ce moment, je me suis sentie submergée. Et heureusement que mon mec, heureusement qu'on tempère, que mon mec a un comportement et une attitude, enfin, qu'il est beaucoup plus patient. Ça vient ouvrir des plaies en moi, bien sûr. Oui, tout à fait. Qui est beaucoup plus patient que moi. Et en même temps, il y a des trucs où il n'est pas du tout patient et moi, je le suis plus. Donc, on arrive à se relayer sur certaines choses. Mais en fait, ce truc du rejet, moi ça me tue. Ça me tue. C'est ça qui me tue. Je pense que s'il n'y avait pas de rejet, mais que c'était juste, entre guillemets, difficile, parce qu'il était dans du non tout le temps, ce ne serait pas pareil. Je ne l'accueillerais pas de la même manière. Qu'il soit dans un rejet, franchement, moi, c'est terrible pour moi. Et depuis qu'on est rentré de vacances, on vit. On est lundi actuellement, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Donc ça fait 3 à 4 jours qu'on vit. Je vais vraiment vous donner des exemples parce que là, vous allez bien comprendre ce que c'est le terrible tout pour ceux et celles qui ne savent pas. On est vraiment dans un sketch permanent. Et en même temps, vas-y, ça doit pas être facile pour lui parce qu'il est en plein dans cette découverte d'émotions. Mais nous, on est genre. Attends, on n'a pas les armes là, on n'a pas. Ah d'accord, tu pleures pour ça. D'accord, ok chérie. D'accord, ok. Attends, tu nous laisses 2 petites minutes pour qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire ensemble. Là, on est là-dedans. Donc ce soir, par exemple, ce qui s'est passé, on rentre de chez Nounou, toute la route, ça se passe bien. On arrive, je dis allez au bain. Non, bon bain avec papa. Et je dis bah non chérie, maintenant c'est avec maman. Non. J'arrive finalement à l'appâter vers l'étage. On fait le bain, ça se passe bien. Et notre fils qui dit fromage. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu l'habitude, bonne, mauvaise, whatever, de lui donner un petit fromage avant son repas. C'est son petit kiff, c'est son petit apéro. Et là, il dit fromage escargot. Parce que c'est un fromage escargot. Fromage en forme d'escargot. Et je lui dis, on en a plus. C'est pas vrai, j'ai mytho. On en avait, sauf que j'avais un autre fromage à la main et que j'avais la flemme d'aller retourner au frigo. Et là, d'un coup... il dit non, fromage escargot. Je dis ok, attends, je vais regarder, peut-être que finalement on en a au frigo. Je me suis peut-être trompée dans mes trucs. Et donc vu que le fromage qu'on lui a apporté, qui est un petit Louis, je fais la publicité pour ce fromage qui n'est pas vraiment un fromage, hein, c'est quand même un peu de la merde, vu qu'il n'en veut pas de ce petit Louis, qu'est-ce que mon mec fait? Il le mange. Pire erreur, alors que moi j'arrive avec le fromage escargot dans la main. Et là, l'enfer. Là, j'ai dit, mais chérie, regarde, je t'ai amené ton fromage escargot. Papa, il a mangé le fromage que tu voulais pas. C'est génial, non? Non! Il crie! Et on se regarde avec le papa, parce qu'en fait, ça arrive très rarement, ce genre de truc. Et on se dit, attends, il descend de table parce qu'il ne veut plus. Donc là, il dit, doudou, doudou. Je dis, mais chérie, tu sais très bien qu'il n'y a pas de doudou à table. Il arrive quand même à retrouver son doudou qu'il avait ramené de chez nounou par terre. Donc il vient avec doudou. Il dit, bras papa. Donc il va être dans les bras de papa. On lui dit, ok, tu peux monter sur les bras de papa, lui faire un petit câlin, mais tu manges pas sur papa. Dis, mangez là, ici, asseoir ici. Non, chérie, tu as ta petite chaise. Tu vas manger sur ta chaise. Et ça se remet dans une énergie. On se regarde avec Yves, on se dit, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, bordel de merde? Et donc là, on lui dit, oh, écoute, chérie, regarde, on t'a ramené de l'eau qui pique, parce qu'il aime bien l'eau qui pique. Non, pas eau qui pique, doudou. Et puis, comment, il se vénère? T'es se vénère. Et donc, finalement, on arrive, il veut bien, il est OK. Il est OK parce qu'on le force pas. Il s'assoit sur sa place. Et là, il voit la moitié du petit Louis que papa n'a pas mangé. Alors qu'il est en train de manger son fromage escargot. Qu'est-ce que je fais? Je mets la main sur le petit fromage, le petit Louis, pour qu'il le voit pas. Sinon, ça fait quand même beaucoup de produits laitiers, quand même. Je dis, non, tu manges ton fromage escargot et puis après, on mange des choux de Bruxelles que maman a fait. Peut-être que je suis une daronne de merde parce que j'ai fait des choux de Bruxelles. Personnellement, je trouve ça excellent, les choux de Bruxelles, avec un petit peu de beurre revenu dans du paprika et des herbes de Provence. C'est vraiment délicieux. Donc, petit choux de Bruxelles avec des petites quenelles. Les quenelles, très sympas. C'est vraiment sous-côté, les quenelles. Mais les quenelles, très, très sympa avec un petit peu d'huile d'olive et tout, vraiment succulent. Et là, en fait, alors là, Yves, tu te débrouilles, je me serais barrée. Non, moi, je me suis mise en face. Et finalement, il arrive à manger. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait pas finir son repas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai montré une vidéo de lui quand il était bébé. J'ai cédé, je lui ai montré la télé sur le téléphone. Et là, bah, c'était parti, c'est la roue libre. On lui fait manger ce qu'il veut. Si on avait envie de lui faire manger son caca, on pourrait, parce qu'on avait allumé la télé sur le téléphone. Donc il disait « Encore bébé !» et il donnait son prénom. « Encore bébé, Yves Junior !» Et donc, ça s'est fini comme ça. Juju, les écrans, merde, tu déconnes. Je sais. Tu vois, c'est ça qui est très difficile, c'est que tout ce que je me suis dit, moi je me suis dit « Jamais d'écran avant 3 ans !» Non ! Il y a des écrans, putain ! Et allez vous faire foutre ! Il y a des écrans tous les week-ends, voilà, je suis une mère indigne. Tous les week-ends, on regarde un dessin animé d'une heure, mais pas de Patrouille et Cars, parce que ça, pour l'instant, je mets mon veto parce que je trouve que c'est de la merde, mais peut-être qu'on s'adra bientôt. Non, on lui montre les Toy Story, les Miyazaki, on lui montre les... Voilà, on a cédé. Bon, ok, vous allez me faire un procès? Eh ben, allez-y. Hier, les amis, il s'est passé quelque chose de merveilleusement dingue. Et donc, nous étions dans sa salle de jeu. Et il avait eu, pour Noël, un camion de pompiers en Lego. Et là, il essaye de faire un truc. Et ça marche pas. Sachant que toute la journée, il y a eu beaucoup d'accumulation dans les émotions. Il arrive pas à faire un truc, il le jette, il tape, il s'énerve... Donc à chaque fois, je dis, allez, détends-toi, chérie, viens, on va souffler, tu veux qu'on aille dans la cabane? Attention, on fait doucement. Moi, depuis 2 ans et 8 mois, les gars, je lui dis, on fait doucement avec le corps des autres, on fait doucement avec les jouets. La violence, c'est non. Donc voilà, tout ça. Et en fin de journée, il est donc avec son camion, ok? Et il n'arrive pas à faire un truc. D'accord? Il n'arrive pas à faire quelque chose. Il l'enlève, et là... Il tape tous ses jouets. Il se met comme ça, dans cet état-là. Tu vois, dans cet état de tremblement. Il tremble et tout. Il n'y a rien qui va, tu vois. Donc, il je dis, chérie, doucement, contrôle tes émotions. Je lui dis souvent, contrôle tes émotions. Il ne sait pas contrôler ses émotions, mais déjà, je lui dis, tu vois. Fais doucement. Et là, il commande, il jette. On fait du coloriage, il déchire. D'ailleurs, quand je lui dis « On va faire du coloriage ?»« Ouais !» Il arrive et en fait, il tape le feutre contre le coloriage et en fait, après, il a tout cassé. Donc moi, ça me vénère. Bref, donc là, il casse tout et tout. Et là, je lui dis « Chérie, est-ce que tu as besoin d'aller respirer dans ta cabane ?» Et en fait, ça va pas. En fait, il commence à venir et il me tape. Mais pas il me tape. Non, je vais vous montrer. Je suis désolée, les personnes qui écoutent cet épisode. Il faut que vous veniez sur Twitch, comme ça vous allez voir en fait ce que je suis en train de mimer. J'essaye de le prendre dans mes bras, ok, pour lui dire chérie viens, et en fait pour me taper, c'est pas il me fout une tarte, il fait ça. Il fait comme ça. Donc le ça veut dire il se bouge dans tous les sens. Je vais vous le faire debout, comme ça vous avez encore plus l'image. Il a failli me retirer mes boucles d'oreilles. Il m'a tapé hop dans l'œil, hop dans le visage, hop dans le ventre. Et moi, à partir de ce moment-là, c'est monté. Dans ma tête, c'est monté. Mais genre, c'est naturel. Tu sais, ça m'a juste rendu ouf. Ça m'a rendu ouf. Il protège sa bulle, en fait. Oui, mais d'accord, d'accord. Non, je rigole. Ça, bien sûr, il protège son truc. Je comprends. Non, mais je comprends, bien sûr. Mais c'est juste que moi, c'est, je lui dis, chérie, je comprends. Viens, on va souffler. Parce qu'on essaye de lui apprendre à souffler quand il y a de la colère et de la frustration et tout. De lui dire qu'en fait, de casser, c'est pas la solution et tout. Et en fait, quand il fait ça, mais bien sûr que comprendre, ça ne suffit pas. Donc franchement, je comprends beaucoup de choses. Hein. Je comprends beaucoup de choses. Et quand il fait ça, je lui dis non, ça suffit maintenant, on ne tape pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Là, je commence à élever un peu la voix. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yves arrive. Yves prend Yves Junior. Et c'est là où je suis désolé, ça ne va pas vous plaire. On le met dans les toilettes. On l'a mis dans les toilettes, on l'a enfermé. Parce que on s'est dit, en fait, maintenant l'escalier, ça ne marche plus. L'escalier, ça ne marche plus. Vous savez là, le truc. Non, mais en fait, là, on en parle en blague, mais je ne m'attendais pas à ça. Non, mais je vais vous dire, en fait, très honnêtement, c'est que quand on lui dit maintenant tu vas aller réfléchir, il va dire oui. Maintenant, il veut aller réfléchir. Et donc, quand il réfléchit, je dis ce que tu as réfléchi, il dit pas pleurer, moi, pas pleurer, pas pleurer, moi, pas pleurer, pas pleurer, moi, pas pleurer. Je dis oui, j'ai compris, chérie, tu n'as pas pleuré, mais est-ce que tu as réfléchi à ce qui s'est passé? Donc, ça ne fonctionne plus tellement, ce truc de menace, entre guillemets, d'aller réfléchir. Donc, maintenant, on s'est dit, en fait, tu vas être puni, en fait, parce que c'est pas OK de taper. Donc, tu vas aller dans une pièce pour réfléchir. Donc au début on l'a mis dans sa chambre, après on s'est dit ouais mais c'est pas ouf de le punir dans sa chambre, donc on va essayer de le mettre dans une pièce, tu vois, donc salle de bain ou toilette. Et donc papa l'a mis dans la salle, dans les toilettes, mais genre 2 minutes, hein. Et donc évidemment il essayait d'ouvrir et tout, donc nous on doit tenir la poignée pour qu'il ouvre pas. C'est là où je suis pas fière de ce que je vous raconte, j'en suis absolument pas fière, vraiment, hein. Mais pour l'instant nous n'avons pas trouvé d'autres solutions. Et pourtant, on essaye d'inventer constamment. Mais on n'y arrive pas. Et à ce moment-là, quand Yves a ouvert la porte et a dit à Yves Junior, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as réfléchi à ce que tu as fait? Il était en larmes. Et là, on est parti sur un rejet de moi. Genre d'un coup, il a été dans le rejet avec moi. D'un coup, très fort. Je ne pouvais pas du tout m'approcher de lui. Je pouvais pas ni le prendre dans mes bras, ni je pouvais rien faire. Et il était en transe, en fait. Il transpirait de pleurs. Il était en larmes. Il faisait en effet une très grosse colère et il avait une très grosse frustration. Et pendant des minutes, il pleurait. Il était inarrêtable. Tu veux pas venir me faire un câlin? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Explique-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de lui parler comme ça. Moi, je me rends compte que quand j'essaie d'être calme, j'articule beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, chérie? Je parle vraiment comme ça, hein, parce que c'est ma seule manière de moi me canaliser. Et à la fin, je lui ai ramené son doudou et il m'a fait un câlin. Mais parce qu'en fait, je l'ai presque forcé, entre guillemets, à rester avec moi et à lui dire, viens, ça va aller. En fait, quand il m'a fait un câlin et qu'il s'est posé sur moi, c'est comme s'il avait lâché, en fait, tout. Il avait tout lâché, quoi. J'ai pleurniché. Parce qu'à la fois, ça m'avait fait vachement de peine pour lui, qui passe par cet état-là, et ces états-là, d'ailleurs. Moi, ça m'a fait de la peine pour nous, parce que je me suis dit, putain, mais la réponse, c'est pas de l'enfermer, quoi. Enfin, c'est nul à chier d'enfermer, dans les toilettes, bien sûr, sans jeu de mots, mais c'est nul d'enfermer son enfant pour qu'il comprenne qu'il a fait une bêtise, on n'a pas envie de ça. Quand il est venu sur moi avec le câlin, où je l'ai forcé, entre guillemets, pas forcé, mais je l'ai invité à venir sur moi, et qu'il s'est posé, il a mis sa tête sur moi et comme ça, il était en train de se détendre, et je lui disais, voilà, allez, viens, chérie, ça va aller. Et à la fin, je me suis dit, putain, mais c'est de ma faute. Et en même temps, je me suis dit, oh, il m'aime. Oh, il m'aime, ça y est, il me donne ma dose d'amour, ça y est, il m'aime, il me rejette pas. Donc j'étais à la fois heureux dans mon schéma à moi, Et dans cette culpabilité de putain, mais en fait c'est de ma faute. Peut-être que je l'ai pris trop fort. Peut-être que quand je lui ai dit calme-toi, je l'ai pris trop fort sans m'en rendre compte. Tout ça pour dire que là je vous donne deux exemples où en fait tout est sujet à tout. C'est-à-dire que le terrible tout, c'est aussi, enfin, cette, il y en a qui disent pas terrible tout, il y en a qui disent autre chose, mais tout est du non. Tout. On va prendre le bain, non. On va jouer, non. On va faire dodo, non. On va faire de la trottinette, non. Rien. Sauf pour un dessin animé. On regarde un dessin animé. Dessin animé. Voilà. Donc c'est et proposer le choix. En fait, je propose parfois le choix. Genre comme ce soir les fromages, je propose du choix. C'est-à-dire que quand il voulait un fromage escargot et que moi je lui ai amené un petit Louis, le petit Louis finalement c'est papa qui l'a mangé, pas ouf. Et j'ai dit hein, quand il va manger le petit Louis, j'ai fait ah pas la bonne décision chérie. Et il l'a mis dans sa bouche, il me fait eh merde, on savait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai ramené un petit Louis. Et un fromage escargot. Je dis, tiens chérie, lequel tu veux? Non, papa. Lequel tu préfères chérie? Non. Et ce truc de proposer un choix, on le fait très souvent. Très souvent, vraiment. Tu préfères cette tenue ou celle-là? Tu veux plutôt qu'on aille faire de la trottinette dans le jardin ou dans la rue? Vas-y, je donne plein d'exemples. Le mal était fait, tout à fait. Quelqu'un me dit sur Twitch, il voulait ce fromage-là. Oui. Non mais voilà, c'est là où tu te dis, ah merde, et en même temps, bon bah, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, il est mangé, on va pas le recracher. Mon mec, vous savez ce qu'il a fait? Imaginons, je vous le montre, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Enfin, peut-être que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il a pris... Le papier du petit Louis, ok? Et moi, je lui ai ramené un petit Louis en secrète derrière, juste le fromage. Il a fait genre, il l'avait recraché de sa bouche, genre, oh, regarde! C'était une blague, chérie, en fait! Il est là, ton petit Louis! Ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. Il y a plein de manières d'éduquer son enfant, ses enfants. On éduque toujours de la manière qui nous semble la plus juste pour nous et pour nos enfants. Je trouve qu'il y a une culpabilité latente qui est là, constamment. C'est pour ça qu'en fait, moi, dans le terrible tout, ou pas d'ailleurs, en fait, je parle jamais de l'enfant, je parle de moi. Parce que moi, je ne l'en veux jamais à l'enfant. C'est juste fatigant parce que tu es sans arrêt en train de devoir trouver des ressources en permanence. Des nouvelles ressources. On tente des choses, ça s'invente tout le temps. Parfois, dans le couple, eh ben, ça ne matche pas. Il y a des moments où ça matche. Mais c'est fatigant de ouf et qu'en fait, moi, ça vient mettre en lumière. C'est ça que je trouve difficile, en fait, dans le terrible two, terrible three, terrible five, d'être parent. Ce que je trouve difficile dans ce métier de parent, c'est ce que ça renvoie à soi, en fait. C'est ce que je trouve difficile. Ouais, moi, j'ai du mal à lâcher prise. J'avoue, j'ai vachement de mal parce que je suis sans arrêt dans ce truc de « je veux bien faire ». Je pense qu'il y a un peu cette chose aussi de... que j'avais évoqué dans une de mes vidéos quand j'étais enceinte, c'est que j'avais peur du reproche plus tard. En fait, je pense que évidemment que nos enfants vont nous faire des reproches. Enfin, c'est sain et c'est normal. Mais moi, j'ai peur de ça, du reproche. Parce que dans mon schéma familial, dans mon contexte familial, faire des reproches à mes parents, moi, c'est très récent. C'est même genre extrêmement récent, à 35 ans. Parce que j'ai pas voulu faire de vagues, parce que mon frère et ma mère, c'était compliqué. Donc, je voulais pas être l'autre enfant qui rajoutait du reproche. Donc, j'ai fermé ma gueule. Alors que j'ai subi des choses difficiles dans la famille. Et donc, j'ai envie que mon enfant ait le moins de choses à me reprocher. Donc, je me sacrifie. Je suis un peu dans un truc de mère sacrificielle, quoi. Et c'est là où ça me va pas, en fait. Parce que je pense que c'est important d'être dans un truc de pas de sacrifice, mais de tout donner, de se remettre en question, de faire du mieux qu'on peut, du mieux qu'on veut. Que notre enfant ne soit pas un objet, mais un sujet. J'essaye, et pourtant, encore une fois, je ne suis pas professionnelle. Mais j'ai l'impression de foirer tout le temps. En fait, j'ai l'impression de pas de foirer tout le temps, mais que mon fils m'en fait baver, en fait. Que quoi qu'il, en fait, je vais avoir des reproches de ouf. Je pense que ça va au-delà de cette sensation, enfin, de cette posture de parent, quoi. De pas être assez méritante, de pas être assez forte, de pas être assez businesswoman, j'en sais rien. Ce truc-là, il est latent parce qu'on nous force et on nous pousse. être toujours mieux, être la meilleure version de soi-même, comme on dit. Mais allez vous faire foutre, niquez-vous, quoi, merde ! On ne peut pas toujours être la meilleure version de soi-même, sauf que inconsciemment, il y a ce truc-là qui est latent. Donc on veut être la meilleure mère, on veut être la meilleure épouse, la meilleure copine, la meilleure influenceuse. Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc-là latent. Et en fait, ça fait chier, parce que ça met une pression énorme. Et qu'au bout d'un moment, très clairement, c'est fatigant, parce que tu sais que ce ne sera jamais assez. Ce sera jamais assez, parce qu'il y aura toujours mieux, il y aura toujours mieux que toi ou moins bien, il y aura toujours ça. Mais donc en fait, c'est une quête qui est en vain. Enfin, et du coup, t'essayes d'exceller dans tous tes domaines, et en même temps, c'est jamais assez parce que tu te compares aux autres. Et donc c'est pareil en tant que maman, en tant que parent, en tant que papa, c'est toujours la même chose. Je faisais des cadeaux à mon fils pratiquement tous les jours. Parce que j'aimais trop le voir découvrir, parce que j'aimais trop le voir extatique devant les choses, et que c'était, on va pas se mytho, mon mec a mis le doigt là-dessus, une manière d'acheter un peu son amour. Franchement, c'est vrai. Après, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être pas ouf. Franchement, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, j'ai arrêté. Pendant un mois, je me suis mis un challenge de, pendant un mois, je ne lui achète rien du tout. Et donc, parfois je lui achète rien et parfois je lui achète des choses. Mais en effet, quand j'achète, genre là, voilà, pendant les vacances, je suis tellement une mère fuge. Je dis ça parce que je suis fuge. Pendant les vacances, là, il y avait une maman qui avait ramené des gommettes, de la peinture, des feuilles avec des ciseaux et tout. Et je l'avais jamais vu faire ça. Et je me suis dit, putain, ça pourrait être cool de lui acheter ça. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Je suis allée le lendemain chez Action, un magasin extrêmement écologique, et j'ai acheté quelques petites choses pour lui, pour qu'il apprenne à faire des gommettes, de la peinture, etc. J'ai dépensé 35 euros. 35 euros chez Action, c'est pas mal. Faudrait que je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai beaucoup trop acheté. J'ai acheté une caisse avec des grandes feuilles un peu cartonnées, un ciseau pour son âge, de la colle à paillettes, des feutres, des tampons, je ne sais pas combien d'autocollants, enfin genre trop de choses, et en plus Hulk et Spider-Man, qu'il appelle évidemment Luke et comment il l'appelle ? Attends, Hulk c'est Luke et Sparrowman. Comment il l'appelle ? Spider-Man, Sidorman. Sidortam, un truc comme ça, très mignon. Donc j'ai voulu lui offrir ça parce que je me suis dit, tiens, comme ça, il les a vus pas en dessin animé, mais en livre. Je me suis dit, tiens, je vais lui acheter tous ces jouets. Donc forcément, quand je vois ça, moi, quand je vois mon fils hyper content, moi, ça m'apporte un truc, tu vois. Donc en effet, pour répondre à cette question qu'on m'a posée sur Twitch, qui est de, est-ce que tu penses que ton amour, l'amour qu'il te donne est proportionnel à ce que tu lui donnes, qui est c'est un peu ça la question. Et ben en vrai, oui, j'ai un peu cette sensation parfois où je me dis que plus je lui donne, plus je vais, il va m'aimer. Ah, j'ai honte de penser ça. Franchement, c'est nul, parce que c'est pas sain, quoi. Je me sens tellement rejetée que quand je lui donne des choses, je lui offre des choses, et je me dis « Oh, regardez, il m'aime !» Je suis presque fière. Quand mon fils vient me faire un câlin, je suis la personne la plus fière du monde. Quand mon fils, il dit « T'aimes fort, maman !» Mais c'est le meilleur cadeau du monde. Je vous jure de recevoir un amour. Mais ça, c'est mon dos, c'est le narcissisme, c'est tout ce que je dois bosser en analyse, que je fais déjà. Je sais pas, ça vient toucher un truc en moi, quoi. Et c'est ça qu'il faudrait que je règle, parce que je vois mon mec, quand notre fils il est en rejet avec lui, il s'en balèque. Bon, ça lui fait pas plaisir, mais il s'en balèque au fond. C'est que je sais que tout ça passe, je sais que tout ça c'est des phases. Mais vas-y, ça dure combien de temps ? Elle dure combien de temps cette phase ? J'ai l'impression qu'en fait ça ne s'arrêtera jamais. Quand je lis des gens sur Twitch ou quand je lis des gens en DM sur Instagram, quand je parle avec des gens qui me disent « Oh, mais moi, tu sais, à 7 ans, mon fils, il me dit qu'il m'aime plus. » Putain, mais ça va durer combien de temps ? Ça va durer des années, en fait. Jusqu'à ce qu'il quitte l'adolescence. Franchement. Mon mec, dans sa parentalité, il est plutôt... c'est un très bon papa, déjà. Mais alors, c'est vraiment un super papa. Franchement, c'est un merveilleux papa. Il est très à l'écoute de notre fils. Il est très, très... c'est un merveilleux papa. Franchement, Je connais peu de personnes comme ça. Je le dis parce que c'est mon mec, mais je le dis parce que pratiquement tout le monde nous le dit. Putain, mais il est incroyable comme papa. Il est vraiment dévoué, il est à l'écoute, il met le cadre comme il faut, il a sa juste place. Voilà, c'est juste qu'il y a des moments, en effet, où il n'a pas de patience. Je crois que c'est plus facile d'accès, en fait. Ça ne vient pas toucher son ego. Ça ne vient pas toucher son ego dès que notre fils il est en rejet. Quand il ne veut pas faire un bisou à papa, bah évidemment, ça ne lui plaît pas, mais il n'est pas dans un truc de « Oh, je ne me sens pas aimée !» Alors que moi, je suis dans un truc de... C'est des coups de poignard, quoi. Je pense qu'en fait, c'est là où je me sens... Là où c'est difficile pour moi, c'est que mon enfant, alors qu'il ne m'appartient pas, hein, très clairement, me rejette. Moi, qui l'ai mis au monde. Tu vois, ce truc un peu, là. En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai la sensation... que je teste plein de choses, on teste plein de choses depuis quelques mois maintenant, de lui parler de nos émotions, d'être triste, de pleurer devant lui parce que bah, c'est ça qui arrive comme moi avec vous là, d'être en colère, d'en parler à des moments hors des émotions. Et dans tous les cas, je pense que les vraies choses qui sont bonnes et valables, c'est la répétition. Je pense que la répétition... C'est ce qu'il y a de mieux, en fait, pour un enfant, pour qu'il comprenne des choses. Le fait de dire, par exemple, depuis 2 ans et 8 mois, on fait doucement avec le corps des autres, il a bien compris la phrase, parce que je lui dis souvent, on fait doucement avec le corps des autres. Il sait ce que ça veut dire, mais il s'en va avec, parce que pour l'instant, il n'est pas là-dedans, parce qu'il ne sait pas contrôler ses émotions, et que quand il a besoin de taper, bah, il le fait. Et puis que un enfant, quand on dit que ce sont vraiment des éponges, c'est la réalité. Je pense que mon fils a très bien capté que moi, j'étais beaucoup plus sensible sur ces sujets-là que son père. Donc, il vient titiller, en fait, mais c'est pas de la manipulation. J'ai conscience de tout ça, mais c'est pas parce que je le sais que j'arrive à être tout le temps dans un équilibre, en fait. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. C'est vrai, tant que tu le sais. À partir du moment où tu le sais, les choses peuvent bouger un petit peu. Mais moi, il y a des moments, comme la plupart des parents, où ça sort. Et en fait, je vais vous dire quelque chose que je ne devrais peut-être pas dire. Moi qui suis extrêmement contre la violence et j'espère ne jamais faire de mal à mon enfant... En fait, je comprends les parents qui sont violents avec leurs enfants. J'accepte pas du tout. Mais je comprends. Malheureusement, je comprends. Parce qu'en fait, il y a des moments où on est hors de nous, et surtout quand tu es parent solo, maman solo, papa solo, c'est très difficile de tout le temps être calme, d'être patient, de comprendre, d'entendre. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer. Et donc, il en arrive à de la violence. C'est pas pour autant que j'accepte. J'accepterai jamais ça. Mon père, il m'a un peu frappé. Il faut que j'arrête de minimiser. Il m'a frappé, même si ça n'a été que quelques fois. Il n'y a rien de bon à ça. Il n'y a aucun aspect positif à la violence. Mais malheureusement, je la comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Entre la comprendre et l'accepter, il y a quand même une nuance énorme. Il y a des parents qui ont été élevés dans la violence et qui, eux, en tant que qu'enfants se sont dit « Ouais, bah écoute, je me suis fait taper dessus, mais ça va, j'en suis pas mort, et en fait, ça m'a vachement fait du bien pour comprendre, pour pas dépasser un cadre. » Donc, il y en a qui se permettent de faire ça avec leurs enfants, parce qu'ils pensent que c'est OK. Et du coup, peut-être que les enfants referont ça avec leurs enfants. Voilà. Je comprends qu'on en arrive aux mains. Je l'accepte pas et je pardonnerai jamais ça. Jamais, 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 jamais. Malheureusement, je trouve que qu'être parent, très honnêtement, hein, c'est l'un des métiers les plus difficiles, quoi. Et quand tu es parent solo, seul, mais une fessée, c'est la même chose. Une fessée, c'est l'humiliation, en fait. C'est de l'humiliation de baisser le pantalon de son enfant et de lui foutre. Moi, ça me donne envie de chialer. Tu ne vas pas donner la fessée à ton enfant parce que, enfin, tu vois, de venir l'humilier, quoi. Serrer la main de mon fils, c'est de la violence. Franchement, c'est déjà de la violence, quoi. Je pense que pour beaucoup de parents, frapper un enfant, c'est je suis le sachant, en fait. Je suis le sachant et tu es le soumis ou la soumise. Et c'est moi qui sais. Donc c'est toi qui obéis. Et si tu obéis pas, tu vas être puni. Pour moi, il y a une nuance entre entre un excès de violence comme ça ne pardonne pas. Hein, attention, il y a un excès de violence de ah putain là j'en peux plus et tu vas foutre une claque à ton enfant. Ou alors le truc du martinet, de la fessée, de l'humiliation. C'est pas la même chose. Et pourtant, ça ne pardonne. Enfin, encore une fois, je ne pardonne pas. Hein. Tu peux punir ton enfant sans violence. Tout à fait, bien sûr, évidemment, évidemment. Enfin, selon moi, oui. Moi, mon père m'a frappé 2-3 fois. Mais je pense que j'ai vécu beaucoup plus de violence psychologique que physique. Et c'est pas mieux ou moins bien, encore une fois. Hein. Je pense que ça se joue à d'autres endroits. Mais moi, j'ai beaucoup manqué d'amour, j'ai manqué de considération, j'ai manqué d'écoute, j'ai eu des jugements, j'ai eu des critiques, on s'est foutu de ma gueule. Enfin voilà, j'ai eu ces trucs-là et donc je trouve que c'est dur, tu vois, comme en tant qu'enfant, de vivre ça. Tu sais, on dit souvent que les mots sont plus durs que les gestes. Bah peut-être. Mais vraiment, dans ce moment-là, je me demande pourquoi on devient parent, quoi. Pourquoi on devient parent si c'est pour traiter ses enfants de cette manière-là? Alors, vous allez me dire que souvent, on ne décide pas d'être parent. C'est vrai. Il y a beaucoup de femmes qui ne décident pas d'être parents et qui gardent ses enfants parce qu'elles n'ont pas eu le courage ou l'opportunité d'abandonner un enfant. D'autres qui n'ont pas pu avorter parce qu'elles l'ont su trop tard, d'autres... Enfin, il y a 12 milliards de raisons. Quand on fait le choix de devenir... Quand on a le choix de devenir parent et qu'on en arrive à être violente comme ça, physiquement et ou moralement, psychiquement, je comprends pas pourquoi on fait des gosses. Franchement, hein... De là à avoir, encore une fois, ça ne pardonne pas hein, ce que les gestes, j'allais dire les petits gestes, je minimise, mais il faut que j'arrête de minimiser ça, c'est pour me trouver des excuses. Les fois où j'ai serré les mains de mon fils, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On n'est pas là pour infantiliser les enfants. On n'est pas là pour qu'ils nous écoutent au doigt et à l'œil. Enfin, je veux dire... À mon avis, je ne vous connais pas vraiment, mais je vous connais un tout petit peu, les gens qui m'écoutent et qui me suivent là sur Twitch. Je pense qu'on est globalement dans la même réflexion de l'éducation. Et je crois qu'on n'est pas, ni vous ni moi, dans un truc de marche ou crève, quoi. Donc, en fait, quand nos enfants nous disent non et quand nos enfants nous rejettent et nous testent et se testent, en fait, c'est à nous de les aider. C'est pas à nous de les blesser. C'est à nous de les aider. C'est en fait on peut faire que ça en tant que parents. Et c'est à nous d'apprendre à être patient. C'est à nous d'apprendre à être parents. Parce qu'être parent, c'est ça. C'est être patient et entendre l'autre. Et qu'il faut savoir, il faut réussir absolument à ne pas tomber dans cette pseudo-facilité, parce que t'as la culpabilité derrière la violence aussi. En fait, moi, je crois que le plus important, quand on est en couple et qu'on est avec le papa ou la maman de notre enfant, ou je dirais le coparent, c'est de communiquer déjà, franchement, à fond, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut inculquer, ce qu'on veut pas inculquer, comment on veut faire, comment on veut parler, comment on veut pas parler, sur quoi on est prêt à céder dans les deux sens, S'AID et CEDER. Donc, tout ça. Mais putain, que c'est difficile. Voilà, je pense qu'en fait, vraiment, comme dans chaque épisode solo, il n'y a pas trop de conclusion. Mais j'avais envie de vous partager, moi, ce que je vis en ce moment où c'est compliqué. Et que, voilà, moi, je vais réussir à soigner ces blessures-là, quoi. Voilà, donc, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Même micro, même studio. Salut. Podcast.
Cats.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.